Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je n'ai jamais approuvé aucune violence, quelle qu'elle soit. Je me considère comme étant non violent.
I am not anti anything.
Je ne suis contre rien.
That means the only I am anti wrong.
La seule chose à laquelle je m'oppose, c'est l'injustice. Tout ce qui n'est pas juste, je m'y oppose.
I have been anti injustices.
Je m'oppose aux injustices faites à l'encontre de mon peuple. C'est pour cela que les gens pensent à tort que je suis anti-européen. Je m'oppose aux injustices, mais je ne suis contre personne.
But not anti anybody.
Un physique d'athlète, une barbe hirsute avec son éternel canne d'ébène à pommeau d'argent, sa grosse bague à l'annulaire, sa chéchia vissée sur la tête, le regard perçant et le verbe fort. Cette impressionnante silhouette continue près de 40 ans après sa disparition de planer sur le paysage politique kényan. Pour sûr, Jomo Kenyatta aura marqué d'une empreinte indélébile l'histoire contemporaine de ce territoire.
Mon premier message pour mon peuple, dit Jomo Kenyatta, sera pour lui demander de rester calme, de ne provoquer aucun trouble à l'occasion de mon retour, ainsi je suis sûr que nous pourrons former une nation unie.
Accusé d'être le réel architecte, le chef de la rébellion Mao Mao qui terrorise le colonisateur britannique à partir de 1952 pour réclamer la restitution de ses terres confisquées et attribuées aux Anglais, Jomo Kenyatta a été condamné à la suite d'un procès et jeté en prison. Mais devant la persistance, la résistance des rebelles Mao Mao et la montée du nationalisme dont il est l'une des principales figures, l'administration britannique prend langue avec lui et négocie désormais la transition avec celui qu'il présentait jusque-là comme le guide vers les ténèbres et la mort.
Nous devons montrer au monde que certains ont eu tort, que certains nous ont mal compris. Ce n'est que par nos actions qu'ils comprendront que nous sommes sérieux. Mes frères, je pense que j'ai assez parlé dans cette langue. Je n'ai aucun souhait de continuer à m'adresser à vous dans cette langue. Qui est non seulement étrangère, mais colonialiste.
C'est presque naturellement que, libéré de prison, il va être élu Premier ministre, puis prononcer l'indépendance du Kenya le 12 décembre 1963, en présence du duc d'Edimbourg qui a effectué le déplacement pour l'occasion.
On voit maintenant le drapeau britannique qui commence à baisser dans la nuit kenyane. Et maintenant les projecteurs sont sur M. Kenyatta au centre de l'arène. Et sur le mât, à gauche de lui. Et on voit maintenant le drapeau kenyan qui flotte, le noir, le rouge, le vert et le blanc.
Tous ensemble. Comment ? Vous dormez ou quoi ? Ensemble, tous ensemble. Dirigeons ensemble notre pays.
Aujourd'hui est un des plus beaux jours de ma vie.
Le Kenya qui accède à l'indépendance va devenir dès l'année suivante, en 1964, une république dont il devient le président. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jomo Kenyatta.
Naturally, having been a detained person, he will
Naturellement, dit Sir Ferdinand, comme Kenyatta vient de sortir de prison, il fait des tas de promesses, et à mon avis, il continuera à en faire pendant un certain temps, mais sitôt l'indépendance acquise, et s'il est toujours au pouvoir, je crains personnellement que nous nous trouvions en face de sérieuses difficultés.
Le pays dont hérite Jomo Kenyatta en cette fin d'année 1963 est un ensemble hétéroclite où vivent de nombreuses communautés qu'il faut rassurer et unifier. Sur ce territoire vivent plusieurs races avec des réalités très différentes qui ne se côtoient finalement que dans la rue. D'abord les colons blancs, inquiets d'une réforme agraire nécessaire qui les priverait de leurs terres. Puis une minorité d'Arabes survivant de l'occupation musulmane du XVIIIe siècle et une importante colonie indienne de 180 000 personnes amenée d'abord comme manœuvre pour construire le chemin de fer de Mombasa aux rives du lac Victoria. Communauté pas très appréciée de la majorité des Africains noirs, dont les alliances entre eux se révèlent aussi fragiles. Comment Jomo Kenyatta va-t-il parvenir à gérer toutes ces individualités, toutes ces communautés ? Dès la proclamation de l'indépendance, le nouveau chef de l'État va s'employer dans un premier temps à rassurer les colons blancs qui redoutent de voir confisquer leurs terres. Ils expriment clairement leurs craintes et menacent de s'en aller. Ils tiennent l'économie et Jomo Kenyatta va leur faire un pont d'or. On efface tout et on part sur de nouvelles bases. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le deal qu'il passe avec eux. Il va même aller les voir dans un cadre où les plus importants d'entre eux sont présents. Dr Njoroge Mungai, son ancien ministre des Affaires étrangères.
That meeting took place in a hall in Nakuru.
Cette réunion a eu lieu dans une salle de Nakuru. Il y avait beaucoup de colons blancs. La salle était pleine.
The hall was full. Our advice at that time, this has never been told before.
À l'époque, et ceci n'a jamais été avoué auparavant, nous ne voulions pas que le projet de loi passe. Nous voulions qu'il soit enterré rapidement. Nous leur avons demandé de nous prévenir avant de décider si les terres seraient rendues à leurs propriétaires d'origine. Ils nous ont répondu « Oui, 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 on vous préviendra ». Alors, nous sommes allés là-bas et nous nous sommes assis. Puis le président Kenyatta a commencé à parler. Nous nous attendions à ce qu'il annonce la date de leur départ. Mais ce n'est pas ce que nous avons entendu.
Certains d'entre vous avaient entendu dire que Kenyatta était un homme horrible. Quelqu'un que je n'aimerais pas rencontrer. Un horrible personnage. Mais me voici, devant vous, mesdames et messieurs. Je ne suis qu'un homme. Si je vous ai fait du tort, pardonnez-moi. Si vous m'avez fait du tort, c'est à moi de vous pardonner.
What will happen if Kenyatta come to be the head of the government? He has been imprisoned. Maybe he has been given trouble. Well, now let me set you to rest.
Je pense que certains d'entre vous ont sûrement été inquiétés à l'idée de ce qui arrivera quand Kenyatta sera nommé chef du gouvernement. Eh bien maintenant, permettez-moi de vous rassurer. Kenyatta n'a aucune intention de regarder vers le passé. Nous allons pardonner le passé.
Docteur Njoroge Mungai, son ministre.
That's not what we thought he was going to say.
Ce n'était pas ce que nous pensions qu'il dirait, mais cette réunion s'est très bien passée. Il répondait parfaitement à chaque question posée. Nous étions tous en admiration. Cependant, il avait oublié de dire une chose que nous lui avions demandé de dire. À la fin de la réunion, nous sommes retournés dans la pièce pour discuter avec lui. Là, Kenyatta nous a dit « Oui, je vous ai bien écouté, avec beaucoup d'attention. J'ai écouté vos conseils, mais je ne les ai pas acceptés. Après coup, je me rends compte que c'était très intelligent de sa part. Nous étions des hommes pressés, de jeunes hommes pressés, et nous ne voulions qu'une chose, qu'il parte. Il était plus sage que nous. »
En réalité, Jomo Kenyatta, conscient de leur rôle dans l'économie, va tout faire pour les rassurer. Il n'est pas question de leur retirer les terres qu'ils possèdent. Au contraire, Jomo Kenyatta va nommer un Sud-Africain de naissance, Bruce Mackenzie, ministre de l'Agriculture. Sa réforme agraire va carrément tourner à l'avantage des colons blancs. Nombre de domaines situés en dehors des régions prévues pour la réinstallation des fermiers africains vont rester intacts. La famille de Lord Delamere, par exemple, qui s'était vue accorder en 1903 une concession de 100 000 acres et qui avait donné le départ à la colonisation de ce qu'on appelait les White Highlands, les hauts plateaux où seuls les Blancs étaient autorisés à posséder des terres, va rester solidement implanté au Kenya. Mieux, toujours en dehors des zones de rachat des fermes des colons, beaucoup d'Européens vont continuer d'acquérir des terrains. Et paradoxalement, ils bénéficient des crédits gouvernementaux pour le faire, à condition de se faire naturaliser Kenyan. Une simple démarche administrative, en réalité, sans risque, puisque dans le même temps, une loi britannique de 1964 leur permet de récupérer leur nationalité d'origine s'ils renoncent un jour à celle du Kenya. Ils sont nombreux à profiter de ces avantages. Cette politique en faveur des colons va faire du Kenya l'un des principaux partenaires de la Grande-Bretagne en Afrique, qui va lui accorder l'essentiel de ses subventions. Londres veut en faire la vitrine de la décolonisation à l'anglaise. Le Kenya prenant ainsi la relève d'un Nigeria déchiré au même moment par la guerre de Biafra et malmené par les coups d'État. Celui que l'on présentait alors comme l'ennemi juré devient l'homme des Anglais, celui à qui on tresse des couronnes. Les colons sont ravis. On passe de la haine et du rejet à l'admiration.
J'ai rencontré Kenyatta, raconte Peter Marion, et je suis persuadé qu'il est un homme exceptionnel, qu'il peut être dans ce pays une force énorme pour le bien comme pour le mal.
Les Indiens, eux, ne vont pas bénéficier de la même attention que les colons. Ils ne jouissent pas non plus de l'affection des Noirs qui les considèrent comme des exploiteurs du prolétariat africain. À l'indépendance, 60 000 Indiens vont prendre la nationalité kenyane. Les autres préfèrent prendre un passeport britannique. Un choix qu'ils vont vite regretter parce que, tout d'abord, une loi est venue exclure les étrangers de tout emploi susceptible d'être occupés par un Africain. Et une autre leur interdit le petit commerce pour les produits de consommation courante et dans les zones rurales. Des lois qui les visaient particulièrement. Le gouvernement va même réduire assez sévèrement l'afflux des immigrants de couleur, comme ils disent. Avec les Africains, la relation est aussi par moments difficile. Ils s'emploient à s'entendre avec les guerriers, les combattants Mao-Mao, qui sont tombés par dizaines de milliers pendant la guerre d'indépendance. Il faut leur montrer de la gratitude, comme ce jour de 1964 où il reçoit une délégation devant la presse.
Et celui-ci notamment. Que va-t-il devenir? Eh bien, il va devenir un citoyen comme les autres. Parce qu'il sait que le Kenya a un drapeau depuis aujourd'hui. Que feront-ils de leurs bras maintenant? Leurs bras, eh bien, ils me les donneront maintenant. Est-ce qu'ils sont dangereux pour la sécurité? Mais pas du tout, ils ne sont pas dangereux du tout pour la sécurité. Maintenant qu'ils ont un drapeau, ils sont contents. Ils veulent faire aucun trouble, aucune rébellion. Tout ce qu'ils veulent, c'est un drapeau. Quel est son nom? Son nom, c'est le général Maruyama. Il dit, son père, c'est moi, tout simplement. Il fera ce que je lui demanderai. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Eh bien, je ne l'ai jamais vu jusqu'ici. Je lui ai donné deux petits drapeaux et il est très content avec ça. Là où les montrer. Les voilà.
Monsieur
le Premier ministre, pouvez-vous expliquer pourquoi il garde les cheveux comme ça? Il veut que je bénisse ses drapeaux d'abord. Et pourquoi a-t-il les cheveux aussi longs? Parce qu'il se réfère à la Bible. Samson était fort grâce à sa chevelure. Lui aussi. Pouvez-vous lui demander s'il est étonné qu'il reste autant d'hommes blancs dans le Kenya indépendant?
He said,
Il dit, nous avons maintenant notre drapeau, et puis il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Seuls nos drapeaux comptent.
Le drapeau compte, certes, mais la revendication principale reste à satisfaire. La question foncière. La redistribution des terres telle que promise ne se passe pas exactement comme ils l'espéraient. En réalité, pour le rachat des terres des colons, l'argent nécessaire est en fait fourni par des prêts obtenus en Grande-Bretagne. Ce qui aboutit donc en définitive à faire payer les contribuables africains des terres qui en fait avaient été arrachées au peuple du temps de l'administration coloniale. C'est le reproche que lui font ses adversaires. Seules 35 000 familles sur 10 millions d'habitants peuvent ainsi se réinstaller. Ce qui fait que seule la petite bourgeoisie africaine va accéder à la propriété privée. Parce que bien que l'État ait accordé des crédits de 20 ans aux acquéreurs des parcelles découpées dans les anciennes fermes européennes, il fallait au moins disposer au départ d'un montant initial de 200 livres sterling. Mais il faut néanmoins souligner que bien des choses sont faites. Le nombre des fermiers blancs va passer de 5 000 à 1500. Et la part des fermiers noirs dans la production agricole va augmenter dans les années qui suivent l'indépendance. Ainsi par exemple, 40% de la récolte du café, la principale exportation du Kenya, dont la culture était autrefois réservée aux seuls planteurs blancs, va être fournie par les petites fermes, c'est-à-dire en pratique celles dont les Africains sont propriétaires. Les éleveurs africains détiennent une proportion analogue du cheptel. Mais pour le thé, les céréales, le sisal, le sucre et le pyrèthre, dont les fleurs desséchées servent à la fabrication des insecticides, ce sont encore presque exclusivement les grands domaines, c'est-à-dire ceux des Européens, qui fournissent la quasi-totalité de la production. Seulement, comme le dénonce l'opposition à son régime, rien n'a été fait pour le reclassement des Mau Mau. Le tournant de cette relation privilégiée avec Londres et difficile avec les Africains est pris en 1964, lorsque dans la foulée de la révolte qui dépose le sultan de Zanzibar, des garnisons africaines du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika se mutinent. En fait, les anciens Mau Mau ont repris le chemin de la forêt sous la dénomination de Land Army. Dans le nord, les Somalis s'organisent dans le maquis et veulent être rattachés à la Grande Somalie. Un an seulement après l'indépendance, Jomo Kenyatta est confronté à une mutinerie qui touche également l'Ouganda et le Tanganyika. Il fait appel à la Grande-Bretagne.
Voici le Centaure. C'est un porte-avions anglais qui croise au large des côtes orientales de l'Afrique. Et les hélicoptères que vous voyez ici transportent des troupes britanniques. Il s'agit pour ces troupes de mater la rébellion qui vient d'éclater au Tanganyika, en Ouganda et au Kenya. Les rebelles, 2500 soldats africains qui espéraient en prenant le maquis obtenir des augmentations de soldes. Ils touchaient jusqu'ici 15 shillings par mois, ils en voulaient plus. Par contre, ils ne voulaient plus de leurs officiers britanniques. C'est le premier bataillon du Tanganyika Rifles qui a pris l'initiative de la révolte. Les mutins sont dans la brousse. Et pour mater une rébellion dans la brousse, n'importe quelle armée du monde emploie des moyens identiques. Fusils et mitraillettes avec en plus ici des haut-parleurs portatifs. D'abord la chasse à l'homme. Les soins viennent ensuite avec la cigarette du rescapé. 5000 soldats britanniques ont eu raison de cette mutinerie. Les prisonniers ont été regroupés dans un camp près de Dar es Salaam et au Kenya près de Lanet. Ils seront jugés par une cour martiale.
Comment le farouche panafricaniste en est-il arrivé à utiliser les soldats britanniques pour mater la rébellion dans son pays nouvellement indépendant? Comment l'expliquer à son peuple, notamment aux Mau Mau qui ont payé un lourd tribut pour cette lutte pour la liberté? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Jomo Kenyatta. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.
RFI à Lomé, 91.5 FM. Les archives d'Afrique, à la Foka.
On Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
My leadership has gone deep to darkness and death.
Mon leadership n'a pas mené vers l'obscurité et la mort, mais vers la lumière et la prospérité. Pendant mon mandat, j'ai réussi à faire construire plus de 300 écoles grâce au soutien financier de mon peuple. Je n'appelle pas ça mener mon peuple vers l'obscurité et la mort.
Donner l'instruction à son peuple qui en a bien besoin. Lui permettre d'acquérir la connaissance et de prendre définitivement son destin en main. De construire son développement. Une priorité pour le militant nationaliste qui, après tant d'années de combat contre l'administration coloniale britannique et des années d'emprisonnement, a finalement obtenu l'indépendance de son pays. Pour Jomo Kenyatta, l'éducation est désormais une urgence. Duncan Duiga, ancien chef du Kenyan Civil Service.
Number one for Kenyatta was education.
La priorité pour Kenyatta, c'était l'éducation. Il considérait l'éducation comme un outil très important pour pouvoir gérer le pays avec succès. Un système éducatif efficace était pour lui une priorité.
Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jomo Kenyatta, le javelot flamboyant qui va parvenir très rapidement à rassurer tous les colons blancs qui menaçaient de s'en aller si le pouvoir lui était confié. C'est tout ce qui désormais lui voue une réelle affection. La redistribution des terres occupées s'est faite sans heurts, avec bien sûr l'aide de la Grande-Bretagne qui a ouvert grand les vannes. Seulement, en ces débuts d'année 1964, le nouveau chef de l'État doit faire face à une mutinerie des militaires qui proteste contre le niveau des salaires et la lenteur avec laquelle sont remplacés les officiers britanniques de haut rang. Cette révolte touche plusieurs pays, le Kenya, l'Ouganda et le Tanganyika. Jomo Kenyatta fait appel aux troupes britanniques pour en venir à bout.
Les mutins sont dans la brousse. Et pour mater une rébellion dans la brousse, n'importe quelle armée du monde emploie des moyens identiques. Fusils et mitraillettes avec en plus ici des haut-parleurs portatifs. D'abord la chasse à l'homme.
Les combats font rage. Les troupes britanniques ne font pas de quartier. Jomo Kenyatta.
Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que l'ordre soit définitivement rétabli au Kenya?
Well, I'm confident because we have made all precautionary measures.
En effet, j'ai confiance et je le crois parce que nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Et je pense que ce que nous avons fait préviendra toute autre tentative de cet ordre. Les troubles ont éclaté soudainement et surtout très facilement. Pensez-vous qu'ils puissent reprendre? De la même manière que nous les avons matés hier, si cela devait arriver, nous ferions la même chose.
La paix est revenue. Jomo Kenyatta tient fermement la barre du navire Kenya dont il est le commandant en chef. Mais tandis que par la suite Julius Nyerere oriente la Tanzanie vers un régime socialiste et Milton Obote élimine le roi du Bouganda de la scène politique, Jomo Kenyatta prend, lui, ses distances vis-à-vis de la gauche. C'est bientôt le renvoi d'une cargaison d'armes soviétiques de Nairobi qu'il déclare en mauvais état et périmé. C'est aussi l'expulsion de journalistes tchèques et russes. La fermeture de l'Institut Lumumba, construit avec les subsides des pays communistes pour former les cadres de son parti, la KANU. La demande de rappel de l'ambassadeur de Chine populaire. Le Mzé ne s'encombre guère d'idéologie, ou plus exactement, il est avant tout et étroitement nationaliste. Un nationalisme ombrageux qui se confond parfois avec son pouvoir personnel. Symbiose qui lui rend intolérable toute opposition trop marquée. Sur le plan économique, il a choisi sa voie. Le développement axé sur les afflux des capitaux étrangers. Pour Jomo Kenyatta, il faut coûte que coûte préserver l'indépendance politique et la personnalité du Kenya. Ceci passe par l'allégeance à sa personne, la discipline et l'unité. Beth Mugo, sa nièce et ministre de la Santé publique de l'époque.
Je me souviens quand les premiers matatus sont apparus. Les compagnies de bus sont arrivées à Gatundu parce que le lundi, des élus locaux se réunissaient. Et ces personnes des compagnies de bus se sont plaintes, disant que les matatous leur prenaient tout leur business, qu'ils n'avaient plus de clients à cause d'eux et qu'ils devaient fermer boutique. Nous leur avons répondu, ce n'est pas un problème, vendez vos bus et achetez des matatous.
Progressivement, Jomo Kenyatta symbolise cette discipline. On s'installe dans le culte de la personnalité. Kenyatta écrit sa biographie « Suffering Without Bitterness » et la publie en 1968.
Mzee Kenyatta is a living legend.
Monsieur Kenyatta est une légende vivante. Et comme nous, c'est un être de chair et de sang. Il a toujours vécu dans la dévotion, au service de l'humanité en général et au service de son pays en particulier. Il a toujours travaillé dur pour prouver sa légitimité à servir son pays. Il a toujours vécu pour son pays et pour son peuple, n'a jamais hésité et n'hésitera jamais à donner sa vie.
Odinga Odinga, compagnon de lutte de la libération, est le vice-président. Mais il fait partie des dirigeants favorables au pays de l'Est que Jomo Kenyatta souhaite écarter. Il va démissionner en 1966 de la vice-présidence pour protester contre les attaques dont il fait l'objet à l'intérieur même de la KANU, la Kenyan African National Union, mais aussi contre la politique gouvernementale. Odinga fait former un nouveau parti, la Kenyan People's Union, KPU. Un nombre important d'élus vont le rejoindre, ce qui met Kenyatta en colère.
Que font-ils de bien pour vous? Que font-ils ces éléments du Kapu pour cette contrée des Jaluo? Dites-le-nous. Rien. Ce sont seulement des propos vides, comme des ânes en pleine forêt. Mais votre glorieux gouvernement fait de grandes choses pour le peuple et continuera à le faire. Ainsi, en tant que chef du gouvernement kényan, je ne peux permettre qu'un individu ou qu'un groupe d'individus vienne saboter notre gouvernement dans ce pays pour lequel nous nous sommes battus.
Pour assécher le parti de celui que l'on appelait double O, ses initiales, et que l'on surnomme maintenant double zéro, Jomo Kenyatta fait voter une loi qui oblige tous les parlementaires inscrits au KPU à se représenter devant les électeurs, ce qui va finalement réduire les candidats du KPU à 30. Les élections sont truquées. Il va assécher le mouvement avant de le faire disparaître tout simplement et bonnement 2 ans plus tard. À la suite de l'assassinat d'un collaborateur Luo de Kenyatta, Tom Mboya, de vives tensions émergent entre les Luo et les Kikuyu. Kenyatta bannit le KPU et le KANU devient un parti unique en 1969 et Jomo Kenyatta président à vie. Entre-temps, il fait retirer leur passeport à ses principaux opposants, notamment Odinga Odinga et ses amis les plus proches. Bildad Kaggia et Kali. Le Mzé, qui a environ 75 ans, est de plus en plus colérique et s'énerve pour un rien d'un Kandegwa, ancien patron de la Kenyan Civil Service.
Il avait un très mauvais caractère parfois. Je me souviens d'un épisode où Jomo Kenyatta avait convoqué les Baluyas pour leur parler des violences sur leur terre. Les maisons avaient été brûlées et Jomo leur a dit « Écoutez, je ne vais pas envoyer la police pour qu'elle découvre qui a fait ça. C'est l'un d'entre vous. » Mais un Baluyas a alors essayé d'expliquer la situation. Certains des termes utilisés n'ont pas plu à Jomo Kenyatta. Alors il lui a lancé son chasse-mouche.
Contre son opposition, notamment contre Odinga Odinga, à travers lequel il voit l'ensemble du peuple Luo, le ton est haut. Lors des élections de décembre 1970, sûr de son autorité, le président choisit d'ouvrir lui-même la campagne à Kisumu, à quelques 300 km de Nairobi, en plein fief de l'opposition. Le mythique va dégénérer.
A scuffle broke out in which, on the main dais of these VIPs, somebody threw a chair.
Une émeute a éclaté à l'arrivée de ces VIP. Quelqu'un a lancé une chaise en direction de Kenyatta. Bien sûr, Kenyatta et son équipe s'étaient très bien préparés à avoir en face d'eux une émeute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait des bousculades, des coups.
Nyoronga Mungai, un ancien ministre de Kenyatta.
Il y avait beaucoup de bruit. On n'arrivait pas à distinguer les voix et bien sûr, c'était le rôle de la police de protéger et de maintenir la paix.
Un journaliste britannique de la place.
The bodyguard of Kenyatta surrounded him and started firing outwards.
Les gardes du corps de Kenyatta se sont placés de dos, autour de lui, et ont ouvert le feu dans tous les sens. C'était terrifiant. Le gros de la foule était à une centaine de mètres, et ils se sont mis à hurler des slogans contre Kenyatta. Je ne sais comment, Kenyatta a réussi à remettre la main sur le micro et s'est mis à insulter vigoureusement la foule en général. Odinga était debout, tenant tête à Kenyatta, lui criant des insultes. La situation était explosive.
Je voudrais commencer par un dicton swahili qui dit que le remerciement d'un âne est un coup de pied. Nous sommes venus ici pour vous apporter, non pas des coups de pied, mais la possibilité avec cet hôpital de soigner nos compatriotes. Il n'est pas question, Ovorien du Capou, de venir ici en scandant des mots choquants. Je suis heureux de voir mon ami Odinga ici, lui qui est le leader de ces gens-là. Et je dis que si je ne respectais pas notre amitié avec vous, Odinga, vous seriez déjà arrêté en ce moment. Et l'on verrait qui, entre la Canoë et Sévorien, est l'autorité dans ce pays. Je dis que si ces gens sales prolifèrent des insanités, nous allons vous montrer que le Kenya a un gouvernement. Et vous, monsieur Odinga, vous savez qui je suis et que je ne fais pas des blagues. Je vous ai longuement laissé libre au nom de notre amitié. Sinon, vous savez ce qui vous serait déjà arrivé.
L'incident va faire 11 morts et des dizaines de blessés. Ces arrestations et cette dérive dictatoriale ne vont pas faire l'objet de vives critiques des grandes puissances, notamment de la Grande-Bretagne, qui le voit d'abord comme le gardien des intérêts anglais. Et puis le Kenya est surtout sur le plan planétaire la destination de rêve pour les vacances avec ses animaux et ses paysages. Mais le Mzee est de moins en moins présent sur les grands dossiers et ses décisions sont un peu désordonnées, on va dire. En réalité, en ce milieu de la décennie 70, Jomo Kenyatta, qui est de plus en plus rare sur la scène politique, se fait vieux. Mais pas question de parler de succession. Bet Mugo, sa nièce.
He hated to travel. He did not like to go by plane.
Il détestait voyager et n'aimait pas prendre l'avion. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'il ait repris l'avion après avoir été élu président. Il est seulement allé en Éthiopie parce que l'empereur Haïlé Sélassie était un de ses amis les plus chers et je sais que c'est la seule personne qui a réussi à le faire se déplacer pour une visite officielle. Sinon, il disait qu'il avait trop de travail ici, que trop de temps avait été gâché et qu'il voulait être ici, au Kenya. Il ne s'est jamais rendu dans un autre pays. Il envoyait toujours le vice-président aux conférences. Je pense que lui non plus, il n'aimait pas beaucoup voyager.
Une phobie qui va probablement être l'une des raisons de l'échec du grand projet de l'Union des États d'Afrique de l'Est. Mais pas la principale.
L'un des pères du nationalisme africain est mort la nuit dernière. Jomo Kenyatta, président de la République du Kenya, avait 86 ans. C'était le doyen des chefs d'État africains. L'un des grands sages du continent noir et il exerçait en Afrique orientale une influence nettement modératrice. C'est la raison pour laquelle sa mort inquiète quelque peu les Occidentaux. L'annonce de son décès a causé quelques remous sur le marché londonien des matières premières, car vous savez que le Kenya est l'un des pays les plus riches d'Afrique.
Brandissant en toutes circonstances le chasse-mouche, symbole de l'autorité, Jomo Kenyatta n'était plus à 86 ans le flamboyant leader qui conduisit le Kenya à l'indépendance en 1963. Tant bien que mal, il essayait de préserver la relative prospérité de son pays dans une Afrique orientale gagnée par les troubles. Depuis 15 ans, il restait fidèle à une forme de développement économique semi-libéral et offrait au monde l'image d'un pays stable, largement ouvert aux investissements étrangers. Jomo Kenyatta avait opté pour le non-alignement tout en conservant de solides amitiés dans le camp occidental. Il maintenait des relations étroites avec la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, qu'il avait pourtant condamnée et détenue pendant la révolte des Mau Mau, nationalistes fanatiques, à la veille de l'indépendance. Et puis, le leader kenyan s'accommodait autant que possible du voisinage d'Idi Amin Dada, l'impulsif et imprévisible président ougandais. Mais son ambition suprême était de maintenir l'unité dans un pays de grande diversité ethnique. La tâche, pour ses successeurs, s'annonce délicate. Le Kenya risque de connaître à son tour les luttes de clans engendrant des tensions tribales.
Après 15 ans de pouvoir, le père de la nation est donc décédé. Le panafricaniste est aussitôt remplacé par son compagnon de cellule, Daniel Arap Moi. Duncan Dengwa, patron du Kenyan Civil Service.
Sa santé, vers la fin de sa vie, je parle des 4-5 dernières années, n'était pas bonne. Parfois, il n'était même pas en état d'honorer ses fonctions officielles, et cela malgré tous ses efforts pour sortir. Parfois, il restait à Katundu, ou se rendait à Mombasa, et on ne devait pas demander pourquoi. D'autres fois, il ne pouvait pas marcher correctement ou ne pouvait pas lire correctement. Et d'autres fois encore, il n'arrivait pas non plus à penser correctement.
Nyoroge Mungai, ancien ministre de Jomo Kenyatta.
A few people around Kenyatta took advantage.
J'ai l'impression que les gens dans l'entourage de Kenyatta ont profité de sa sénilité. D'autant qu'en tant que président, et de surcroît très actif dans sa fonction, tout document devait passer par lui et obtenir sa signature. Son entourage lui faisait parfois signer des documents sans qu'il s'en aperçoive. C'était vraiment déplacé.
Joe Kadi, journaliste kényan.
I would like to exonerate Jomo Kenyatta himself.
J'aimerais innocenter Jomo Kenyatta. Il n'a pas joué de rôle dans les assassinats de Tom Mboa, de Gama Pinto ou de J.M. Kariuki. Je ne pense pas que Jomo Kenyatta ait quelque chose à voir là-dedans. Jomo Kenyatta était déjà âgé. Il n'était déjà plus vraiment aux commandes. Quand il est mort, c'était un vieillard respecté.
Nyoroge Mungai, ancien ministre de Jomo Kenyatta.
Aujourd'hui, nous avons énormément de médecins, beaucoup d'ingénieurs et plus d'avocats qu'on ne peut en compter. C'est un changement récent. Tous ont été formés ces 40 dernières années. C'est à Kenyatta que l'on doit ce changement. Il a mis le pays sur la bonne voie.
L'héritage de Jomo Kenyatta permet aujourd'hui aux Africains vivant au Kenya d'être autonomes. Il a détruit le système colonial, a convaincu le peuple de son autonomie, et à ceux qui doutaient encore, il a prouvé en dirigeant le pays qu'un gouvernement fondé sur la justice peut mener le pays sur le chemin du renouveau.
Joe Kadi, journaliste.
When he allowed tribalism to get out of control, and when he allowed corruption to get out of control.
Quand il a laissé le tribalisme et la corruption dégénérer, le vieil homme avait pris un coup de vieux et n'avait sans doute plus toute sa tête. Car Jomo Kenyatta était un libre penseur, indépendant, prêt à se sacrifier pour son pays. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut qu'on se souvienne de lui. Un grand homme.
Nyoroge Mungai, ancien ministre des Affaires étrangères de Jomo Kenyatta.
He left a very good foundation. It keeps Kenya going even today.
Il a laissé une très bonne base sur laquelle le Kenya d'aujourd'hui continue à se bâtir. Il y a eu des moments où, sans cette base solide, le Kenya se serait désintégré. Cela n'est pas arrivé et n'arrivera pas. Et ce sont ces fondations solides que le père de cette nation a posées.
C'est par ces bilans que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Jomo Kenyatta, que vous pouvez réécouter sur le site de RFI ou sur notre application que vous pouvez télécharger gratuitement sur Apple Store ou sur Google Play. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Semaine d'actualité.